évoquer ce mois de mai, ce souvenir, esquisser un paysage mental, imaginer un chant choral, une mosaïque de textes, une polyphonie d'écritures qui se croisent, se répondent sans le savoir, et même empruntent quelques pas de côté, ici et ailleurs, tout autour. Tel fut mon carnet de route amical, la saisie des surprises, un tissage inattendu.
Mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin, première émission.
Rassemblez-vous, braves gens, d'où que vous soyez, et admettez qu'autour de vous, l'eau commence à monter. Acceptez que bientôt, vous serez trempés jusqu'aux os. Et si vous valez la peine d'être sauvés, vous feriez bien de commencer à nager, ou vous coulerez comme une pierre. Car les temps sont en train de changer.
Bob Dylan.
Mai 68, comme tout événement qui ébranle la constance du monde et suspend pour un temps le cours ordinaire des choses, semble une fois passé frappé d'irréalité et paraît excéder les capacités du langage. Quand l'ordinaire doit rendre compte de l'extraordinaire, les mots manquent. Par là même, la chose s'abolit et prend les couleurs d'un songe. Cet événement, je l'ai vécu, ou plutôt, j'en ai été affecté. Je peux même dire qu'il m'a transi et que tout ce que j'ai vécu depuis en a été irradié. Pourtant, très souvent, dans l'après-coup, je me suis mis à douter de ce que j'avais vécu. Je me suis souvent demandé si mai avait vraiment existé, ou si, plus ou moins à mon insu, je ne construisais pas une fable en lieu et place de ce qui s'était vraiment passé. Car telle est bien la question. Que se passe-t-il en mai? Et deuxième question, tout aussi énigmatique, qu'est-ce qui est passé, y a-t-il eu même passage, de ce qui s'est passé?
Jean-Paul Dolé.
Ce qui se passe. Quand je dis cette phrase, je vois toujours les mots sur l'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Pourtant, j'ai cru comprendre. Il ne faut pas comprendre. Cette affiche avait été tirée et collée sur les murs après la reprise du travail, à la fin de la grève et des occupations d'usine. Des lettres blanches sur fond bleu nuit. Comment sait-on que quelque chose s'est passé? La grève, en tout cas, a eu lieu.
Leslie Kaplan.
Vint très vite, il me semble, le mouvement le plus inattendu ressenti pourtant comme le moins évitable. Cela devait arriver. Mouvement du 22 mars, révolution de mai 68. L'initiative ne vint certes pas de nous, pas même de ceux qui créèrent l'impulsion et parurent en prendre la tête. Traînée de feu, effervescence où nous fûmes emportés et où nous ne cessâmes d'être ensemble, mais d'une manière nouvelle. Nous étions devenus un groupe d'amis unis jusque dans nos désaccords, lesquels je les ai oubliés. Or, dans les comités d'action de mai 68, aussi bien que dans les manifestations, il n'y avait pas d'amis, mais des camarades qui se tutoyaient aussitôt et n'admettaient ni différence d'âge, ni reconnaissance d'une renommée préalable. Sartre s'en rendit compte très vite. Parmi les interdictions écrites sur les murs, il y en avait une qu'on nous rappelait quelquefois et dont tous ignoraient qu'elle venait du Talmud. Il est interdit de vieillir.
Maurice Blanchot.
Notre passion de vivre est la force la plus révolutionnaire et la plus radicale qui soit. Oui, les adultes nous répriment et nous démoralisent. Nous ne sommes pas contre les vieux, nous sommes contre ce qui les a fait vieillir. La scission dans l'homme s'accomplit irrémédiablement dès qu'il a renoncé à sa jeunesse, c'est-à-dire à vivre, dès qu'il la fige en termes de souvenirs, de regrets. La jeunesse, c'est le refus de cette scission dans l'être, c'est la rupture dans le processus dévitalisant du renoncement. Faire l'amour est de loin une des choses les plus agréables que nous connaissions.
Richard Dehaye.
À la Boisserie, 11 décembre 1969, lors de la dernière visite de Malraux au général, qui donnera le tableau admirable des chaînes qu'on abat. Le déjeuner vient d'avoir lieu. Yvonne sert les cafés, on s'assoit dans les fauteuils. La bibliothèque écoute. La conversation vient sur les jeunes. Le général, tournant sa cuillère, demande à Malraux « Vous avez eu l'occasion d'assister à leur grande réunion de hippies ?» Et Malraux « Je crois qu'elles ont lieu surtout en Californie. »
Michel Crépu.
Quand je suis arrivé boulevard Saint-Germain, le vendredi 3 mai après-midi, par la rue de la Harpe, je devais, pour des motifs personnels, monter le boulevard Saint-Michel, mais des policiers casqués et armés qui me tournaient le dos bouchaient le passage à la hauteur de Cluny. Et plus haut, à la rue des Écoles, il y avait ce que je n'avais jamais vu, immobilisé plus ou moins par la foule qui se trouvait là, des quarts de police sur quoi des pavés jetés en l'air, 5 ou 6 à la fois, retombaient. J'ai dû prendre le boulevard Saint-Germain dans la direction de Saint-Germain-des-Prés, puis les petites rues jusque tout en haut.
Jean Thibaudeau.
Les souvenirs se mélangent. Les larmes et les rires, les édredons des chambres, les regards tendres et ceux poignards, l'énergie du matin, l'excitation de la cuisine remplie à craquer de visiteurs, euphorie, peut-être la commune à Flins, la place publique, notre petite cuisine. L'utopie comme étendard. Il faut faire vite, on a mis des patins à roulettes à nos idées, on fonce sur tous les fronts, commune plus usine plus mai 68, tout est possible à celui qui croit.
Hélène Bleskin.
Ce printemps-là, quelques jours à peine avant les rameaux, Martin Luther King s'est fait abattre au Lorraine Hotel à Memphis. Dans le journal, il y avait une photo de Coretta Scott King, le visage inondé de larmes derrière sa voilette de veuve, en train de réconforter sa plus jeune fille. Mon cœur s'est serré comme lorsque, adolescente, j'avais regardé Jacqueline Kennedy derrière son voile noir flottant, debout, immobile, avec ses enfants, tandis que le corps de son mari passait dans un corbillard tiré par des chevaux. J'ai essayé d'exprimer mes sentiments dans un dessin ou un poème, mais j'en ai été incapable. On aurait cru que chaque fois que je voulais exprimer l'injustice, les mots justes me fuyaient inexorablement.
Patti Smith.
Le général insiste, la chose m'intéresse, figurez-vous, que veulent-ils réellement ? Alors Malraux, un mode de vie. Leur idéologie, celle des groupes qui les ont précédés ou qui les suivent, ne me semble pas essentielle. Les azous se réclament de l'existentialisme, les hippies de Gandhi et les contestataires de Che Guevara. Les hippies, il les retrouvera le soir des funérailles du général, ouvrant leurs ponchos pour délivrer les chrysanthèmes. Façon d'inviter symboliquement Bob Dylan à un événement qui dépasse de loin le cercle des fidèles.
Là, à la rue Soufflot, plusieurs milliers d'étudiants, dont beaucoup de filles, stationnaient. On aurait dit qu'ils ne pouvaient faire autrement. Beaucoup avaient des livres et des papiers sous le bras. Sans doute certains venaient-ils de Nanterre, dont la faculté, comme l'avait dit la radio à midi, était fermée. J'appris alors que des militants de gauche qui s'étaient réunis dans la cour de la Sorbonne pour protester contre les agissements fascistes des groupes d'extrême droite avaient été arrêtés par la police et que la Sorbonne était à son tour fermée.
Jean Thibaudeau.
L'usine, la grande usine univers, celle qui respire pour vous. Il n'y a pas d'autre air que ce qu'elle pompe, rejette. On est dedans. Tout l'espace est occupé. Tout est devenu déchet. La peau, les dents, le regard. On circule entre des parois informes. On croise des gens, des sandwichs, des bouteilles de coca, des instruments, du papier, des caisses, des vis. On bouge indéfiniment, ni début ni fin. Les choses existent ensemble, simultanées. À l'intérieur de l'usine, on fait sans arrêt. On est dedans. dans la grande usine univers, celle qui respire pour vous.
Leslie Kaplan.
On pouvait distinguer les quelques-uns, une trentaine, qui défilaient à hauteur de la Sorbonne, la première ligne des policiers, puis tous ceux qui regardaient d'assez près, les uns déjà nerveux arrachant les panneaux de signalisation ou les grilles des arbres, et d'autres au contraire qui appelaient au calme et à ne rien improviser, mais à préparer pour le lundi une riposte conséquente à la provocation policière, les plus nombreux, enfin, désœuvrés donc, avec les livres et les cahiers, désorientés peut-être, mais plutôt gais, et d'ailleurs résolus à ne pas partir. Quand la police chargeait, les étudiants refluaient aussitôt, et ils réoccupaient leur position dès que la police revenait sur sa ligne de départ. Plus grand-chose ne circulait. Tout le trafic était paralysé.
C'est le préfet de police Grimaud qui a donné, à mon sens, la meilleure définition de ce moment de mai 68, une révolution littéraire. Contrairement à ce que les adversaires de mai ont inlassablement répété pour mieux disqualifier cette éruption qui déstabilisait un monde qu'ils voulaient maintenir en l'état, cela ne signifie pas que tout ce qui s'est passé durant ce court moment est sans gravité, dérisoire, qu'il ne s'agirait en somme que de littérature.
Jean-Paul Dolé.
Mai 68, c'était parti. La police ne reviendrait à la Sorbonne que le 16 juin suivant pour expulser définitivement, à la suite d'une sombre histoire de bagarre nocturne, les étudiants et autres occupants qui y siégeaient, tels de nouveaux jacobins, en comité permanent d'occupation. Cela se fit sans drame. Entre ces deux dates allaient se dérouler les événements les plus étranges que Paris et même la France eussent jamais vécu. La violence y atteignit des paroxysmes, mais sans mort d'homme. La parole submergea les rues et les places, les amphithéâtres, les scènes de l'Odéon et d'ailleurs. Aux plus brutaux affrontements succédaient des périodes de paix quasi idylliques, où les chants et la poésie alternaient, dans des meetings improvisés, avec la phraséologie révolutionnaire la plus résolue. Le gouvernement de la France paraissait un théâtre d'ombre. Les déclarations officielles ne passaient plus la rampe. Les slogans surréalistes de mai les faisaient soudain plus démodés que le latin.
Maurice Grimaud.
L'usine, on y va. Tout est là, on y va. L'excès, l'usine. Un mur au soleil, tension extrême. Mur, mur, le petit grain, brique sur brique. Ou le béton, ou souvent blanc. Blanc malade ou la fissure. Un peu de terre, le gris. La masse mûre. En même temps, ce soleil. La vie est. Haine et lumière. La vie fourre, d'avant le commencement, total. On est prise. On est tourné, on est à l'intérieur. Le mur, le soleil, on oublie tout. La plupart des femmes ont un merveilleux sourire édenté. On boit un café à la machine à café. La cour, la traversée. Être assis sur une caisse, tension, oubli.
Face au Luxembourg, place Edmond Rostand, le bassin à sec était le seul espace libre. C'est là que j'ai acheté la troisième édition du Monde, où était annoncé le proche début des pourparlers américano-nord-vietnamiens, à Paris ou dans la région parisienne. Je suis entré dans un café pour lire le journal et boire une bière. Nous étions là 6 ou 7, et le personnel même nombre, enfermés à clé derrière les vitres. De temps en temps, les manifestants passaient devant en courant dans un sens, puis dans l'autre. Une fois ou deux, un flic vint jusque-là. On criait « CRSSS » et « Libérez nos camarades ». Dans le café, une jeune femme attendait son autobus, mais chaque fois, elle se décidait trop tard à demander au garçon préposé à la clé de lui ouvrir la porte vitrée, et l'autobus repartait sans elle. Nous étions comme réfugiés dans un café au bord de la mer quand il pleut très fort et qu'on reste à l'intérieur, à cause aussi de l'étrangeté.
Jean Thibaudeau.
Décembre 1969. Mai 68 est encore chaud. On a vu le résultat dans la rue, d'abord l'émeute, ensuite le recours. Malraux a fait évacuer l'Odéon, il a défilé avec la famille gaulliste lors de la fameuse manif du 30 mai. C'est la scène finale, une tombée de rideau. La CGT de l'époque, aussi kantienne que communiste, a fait entendre qu'on devait savoir arrêter une grève. Pour autant, ni le général ni l'écrivain n'ont perdu de vue qu'ils avaient eu affaire à un événement d'ordre spirituel. Comme Maurice Clavel, autre gaulliste extraterrestre, le dira avec ses propres termes. L'épisode des chaînes a une valeur symbolique bien propre à l'époque. Les événements ont laissé une trace qui ne se résume pas à la couleur des tracts échangés. Il y a autre chose qui demande à être décryptée, interprétée.
Michel Crépu.
Mais comment faire? Qui décrire si les gens étaient les mêmes et plus tout à fait les mêmes? Les questions qui venaient touchaient à l'existence, ou plutôt ce n'étaient pas même des questions, mais des bougies, des failles ou des lapsus de conduite, des débuts de dérive ou de décollement, de légers séismes dont on n'est pas très sûr après, dont aucune pierre fendue ne témoigne. Même les vies passées prenaient des aspects un peu différents selon les heures, et pas seulement chez les privilégiés de la conscience. Les jeunes ouvrières qui refusaient par sanglots et crises de nerfs de franchir à nouveau les portes de l'usine, quoiqu'on leur expliquât la grande victoire syndicaliste, avaient évidemment entrevu quelque chose. Autre chose. Quoi ?
Maurice Clavel.
La jeunesse forme une grande partie de la population en France. Pourquoi n'a-t-elle aucun droit politiquement? Pourquoi faut-il attendre l'âge de 40 ans pour être écouté?
Un étudiant.
Je ne crois pas que la jeunesse n'ait aucun droit politiquement. Si vous voulez qu'elle en ait davantage, ça veut dire baisser l'âge du droit de vote. Ce à quoi je ne vois naturellement aucune objection. Mais la question que vous posez est à mon avis très intéressante sur un autre point. Vous dites... Pourquoi faut-il attendre d'avoir 40 ans? Je ne crois pas tellement qu'il faille attendre d'avoir 40 ans pour qu'on vous écoute. Je crois au contraire qu'on n'a jamais autant écouté la jeunesse. La preuve, c'est que nous avons tous lu Rimbaud.
André Malraux.
On fait des câbles près de la fenêtre. Les câbles ont beaucoup de couleurs. On les enroule en circuit. Il y a de la lumière, l'espace est mou. On va, on vient. Couloir, oubli. On travaille 9 heures. On fait des trous dans des pièces avec une machine. On met la pièce, on descend le levier, on sort la pièce, on remonte le levier. Il y a du papier partout. Le temps est dehors, dans les choses.
Leslie Kaplan.
Mai 68 a, en France, cette particularité que les adversaires qui s'affrontent, gaullistes et gauchistes, se réfèrent au même imaginaire de la résistance et s'en disputent l'héritage. À cette bataille s'ajoute une autre, aussi fondamentale et acharnée, celle qui se livre autour du signifiant « révolution » qui oppose frontalement et violemment gauchistes et communistes. Et c'est pourquoi ces querelles d'imaginaire mémoriel peuvent donner lieu à des transgressions et être ressenties comme des profanations par les deux camps. Le CRSSS, précédé à Nanterre par Grappin nazi, indigne les anciens résistants qui ont eu, eux, affaire au vrai SS. Et stigmatisé, comme le fait Georges Marchais, Daniel Cohn-Bendit d'anarchiste allemand, s'épuisait dans le pire fond nationaliste d'extrême droite.
Jean-Paul Dolé.
20 mai 1968. Texte politique sur la naissance du comité d'action étudiant-écrivain. Une seule fois, nous sommes 60, à la Sorbonne, dans une salle de la bibliothèque de philosophie. 15 sont célèbres, écrivains, journalistes, chroniqueurs de la télévision. 40 autres, non, écrivains, journalistes, étudiants, sociologues. Des résolutions sont votées à l'unanimité, un boycott de l'ORTF en particulier. Il y a de très nombreuses interventions. Il est proclamé plusieurs fois que tout le monde doit parler. En fait, 6 ou 7 y arrivent. Des projets sont échafaudés et souvent avec précision. Des commissions sont nommées. La bonne volonté fuse, impose sa bonne volonté. Au bout de 3 jours, le comité émigre alors à Sancier. Un certain nombre d'écrivains réunis quittent le comité, s'emparent de la Société des gens de lettres.
Marguerite Duras.
J'avais commencé avec l'intention de parler du Vietnam et d'aborder la question du tiers-mondisme, et voilà que je me rends compte de toute autre chose. Mais c'est parce que tout est glissant, parce que toute cette période est tourbillonnaire. Aussitôt que la mémoire touche un point, celui-ci en réveille d'autres, et la structure devient celle d'un archipel désordonné. On tire un fil et c'est toute la pelote qui vient. Sans doute est-ce tout le passé qui de lui-même est structuré ainsi, c'est-à-dire en fait sans structure, mais avec cette forme où ce moment du passé que j'essaie de circonscrire, la remontée, est encore plus impatiente, les contaminations plus rapides.
Jean-Christophe Bailly.
La dernière manifestation, celle que nous avions organisée, étudiants, écrivains, travailleurs, manifestation interdite. J'ai reçu le matin même à mon domicile un papier officiel de la préfecture. Comment ces fonctionnaires nous connaissent-ils si bien ? Cette manifestation me laisse le souvenir de Michel Léris. Nous marchions bras dessous, avec Marguerite entre nous, pour nous protéger les uns les autres. Et c'est Claude Roy qui a l'honneur d'être pris et jeté dans le car où la police a besoin de victimes pour que l'ordre ne soit pas bafoué à l'excès.
Maurice Blanchot.
Cela me rappelle ces coloriages que l'on faisait enfant et où la règle d'or, d'ailleurs souvent transgressée, était de ne pas déborder. Or là, tout déborde. La couleur ne tient pas dans ses lignes. Et les lignes elles-mêmes s'enchevêtrent sans former de figure. Ce ne sont pas des volumes qui viennent, mais d'étranges formations torsadées où le fil que l'on croyait perdu se retrouve ailleurs. Contre cette tendance, je pourrais lutter et organiser les choses, par exemple avec des têtes de chapitre ou des entrées, comme dans un dictionnaire, mais ce ne serait que reculer pour mieux sauter. Et le débordement ou les empiètements reviendraient à l'intérieur même des parties, j'en suis sûr. Autant, par conséquent, se fier au tout venant et à son errance, et glisser.
C'était mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin, première émission. Avec les voix de Claude Aufort, Sandy Boisard, Antonin Chalon, Guy Chapelier, Sophie Dole, Aymeric Le Serre, Johanna Nizar, Frédéric Pierrot, Nicolas Raca, Dominique Verrier et la voix d'Élodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Antoine Vuillose de la discothèque pour les recherches musicales. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin et Alice Seyed. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Juliette Eman. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques des textes sur notre site internet à la page du feuilleton.